Alors bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Je veux saluer mon ami le juif. Je dis toujours mon ami le juif, j'ai de la peine à me rappeler son nom. C'est Joseph Ebenezer. Dieu te bénisse avec ton épouse. Amen, on les applaudit. Je ne les connais pas, c'est simplement sur Internet que je. Mais j'apprécie beaucoup ce frère. J'espère qu'on va le rencontrer un jour. Ils sont loin, ils sont dans le Jura. Enfin, je crois, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Bien, on va lire Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques 5, je vous lis dans la version de la Bible juive complète, la nouvelle version de la Bible par David H. Stern. J'en fais toujours de la pub parce que je l'aime bien. Quoique, des moments, c'est un petit peu embêtant parce que les livres sont pas placés dans le même sens que dans nos Bibles. Alors, des fois, quand je cherche Esaïe, je le trouve pas. Je sais pas où il est, il faut que je fouille. Et, c'est rigolo. Non, c'est des fois un peu ennuyeux, mais il faudra qu'on s'y fasse. Enfin, que je m'y fasse. Jacques 5, vous y êtes, verset 7. Soyez donc patients, hein, parce qu'il parle de toutes sortes de choses, c'est pas sur la terre. Soyez donc patients, frères et sœurs aussi, évidemment. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voyez le fermier qui attend le précieux fruit de la terre, il prend patience en attendant les pluies d'automne et du printemps. Vous aussi, soyez patients, prenez courage, car le retour du Seigneur est proche. Ne maugréez point les uns contre les autres, frères, afin que vous ne tombiez pas sous la condamnation. Voici, le juge se tient à la porte. Frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous déclarons bien bénis ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous savez quelle était l'intention d'Adonai, car Adonai est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous savons que Jésus est le chemin. Il est le chemin. Et nous sommes venus à Jésus parce qu'il nous a appelés. Et nous sommes venus sur ce chemin. Nous marchions ailleurs. On était dans des voies, on était égarés. Et puis, il nous a mis par grâce sur son chemin, enfin sur lui, en lui. Quand on dit on est en Jésus, on est dans le chemin. On est dans le chemin. Et nous avons quelque chose qu'il faut quand même savoir, c'est que bon, on sait quel est le but, on sait où on arrive avec ce chemin. Vous savez où on va. On va dans la gloire avec notre Seigneur. Mais ici-bas, sur ce chemin, eh bien, on n'a pas de véritable certitude. C'est embêtant. On aimerait bien savoir un petit peu. Je me rappelle la première vision que j'ai eue quand je me suis converti, j'étais tout jeune. Je voyais une montagne, et puis il y avait c'était comme un cône, si vous voulez, puis il y avait un chemin qui montait, puis je voyais un bonhomme qui montait sur le chemin, et puis moi, de là où je voyais que juste derrière là où ça tournait, il y avait un monstre. Je disais, oh là là, faut pas qu'il y aille, parce que s'il y va, il va se faire bouffer par le monstre, ou il va tomber. Et puis, en fait, c'est le monstre qui est tombé. C'était une jolie vision hein, que j'ai eue, c'était une des toutes premières. Eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas de certitude, et des fois, on a des grosses peurs comme ça, des grosses frayeurs, ou des tours d'un chemin, ou alors il y a quelqu'un qui rentre sur le chemin qui n'a rien à y faire, ou il y a quelqu'un qui traverse le chemin un petit peu comme les biches ici, dans notre coin. Il faut faire toujours attention de savoir s'il y a une biche. Quand c'est une biche, encore ça va, mais... c'est mignon, mais le sanglier aussi c'est mignon, enfin tout est mignon hein, dans la création de Dieu. Des fois on dit tiens, mais Dieu il s'est drôlement amusé, il a fabriqué des trucs bizarres, hein, des animaux, surtout dans les poissons. Je sais pas si vous avez remarqué la gueule des poissons, il y en a qui sont magnifiques, mais il y en a qui ont vraiment des allures. Des insectes aussi, c'est rigolo. Luther, le réformateur, il disait que les mouches et les moustiques, ça n'est pas, c'était pas Dieu qui les avait créés, c'était le diable. J'aurais bien aimé aussi connaître Luther, il a un humour assez cinglant. Si vous ne connaissez pas, il y a un excellent livre qui s'appelle « Les propos de table de Luther », je vous le recommande. ils ont réédité ça. Donc on n'a pas vraiment des certitudes sur ce chemin. On n'en a que pour la vie après, la vie terrestre. Autrement, eh bien, nous suivons le chemin et puis ce que nous devons faire, eh bien, c'est nous adapter constamment. Nous adapter constamment. Et vous qui m'écoutez sur Facebook ou sur Révélation Bible ou sur YouTube, ben, vous le savez bien, hein, si vous êtes chrétien depuis plus longtemps, si vous êtes un vieux chrétien, vous savez que combien de fois on doit s'adapter, n'est-ce pas? Sur le chemin, on a aussi nos fidèles compagnons. Moi, j'ai mes fidèles compagnons qui sont là, il y en a, ça fait plus de presque 40 ans maintenant qu'on vit ensemble en communauté. Mais comme je vous le disais, il y a aussi des fois des brigands et puis des comètes de passage qui viennent jeter quelques étincelles désagréables ou des gaz, n'est-ce pas? Enfin, bon. Et nous avons notre carte de route, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, et puis on a aussi cet autre témoignage de Jésus-Christ qui est le livre de Moron, il faudra vous y faire, mais moi j'aime beaucoup ce livre-là et je vous recommande de le lire. Il n'y a pas grand monde qui me fait des commentaires là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Et puis je voudrais aussi, tiens, en parlant de beaucoup de monde, je voudrais vous remercier pour tous les amen et tous les encouragements au sujet de la photo extraordinaire. Vous savez, c'est Jésus sur la croix, c'est marqué « Je suis la lumière et vous ne me voyez pas », etc. Et il y a plus de, là je regardais tout à l'heure, il y a plus de 24 000 personnes qui ont manifesté quelque chose au sujet de cette photo. Où il y en a 5 qui m'ont insulté, mais c'est pas grand chose sur 24 300, enfin. Et bien, cette photo, elle est justement de mon ami juif, de Joseph Ebenezer. C'est lui qui a écrit tout ça. C'est très beau, hein. C'est très beau. J'avais piqué ça sur son Facebook, et puis je l'ai mis là. Je pensais jamais que... Et d'ailleurs, même Facebook m'a écrit, ça n'aura pas beaucoup de succès, parce qu'il y a des écrits sur votre photo. Ah bon, ça n'a pas beaucoup de succès parce qu'il y a des écrits sur la photo? Je crois qu'on n'a jamais eu 24 000 personnes qui sont venues faire des... qui se sont manifestées. Et comme quoi, c'est des machines qui nous écrivent, qui nous répondent. Donc, sur le chemin, on a nos fidèles compagnons, et puis on a notre carte de route, la Bible, et nous y lisons que nous ne devons pas juger ce qui se passe sur le chemin sur la base du vrai ou du faux. On apprend que, au contraire, nous devons plutôt juger l'attitude. Pour avoir l'attitude la plus appropriée sur le moment, à chaque pas, lors de chaque rencontre. Mais nous juger nous et notre attitude. Quelle attitude on doit avoir sur ce chemin et non pas juger les uns, juger les autres, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et tout. Ça, de toute façon, on est sur le chemin, on risque rien en réalité, hein. En réalité réelle, on risque rien. Juste des problèmes de la terre, mais qui passeront. Hein, l'autre jour, on était chez des amis, et puis ils me disaient, ben, il y a 10 ans, ici, il n'y avait pas de permis de construire, et c'était, et puis maintenant, ben, il y a un monde fou qui est là, puis, les choses changent, et tout change sur la terre. On n'a jamais vraiment des certitudes, donc il faut pas juger, voilà, comme ça, on sait jamais les choses, pour le pourquoi et le comment des choses. Sur ce chemin, nous savons que, nous avons des compagnons. Et nos compagnons, eh bien, ils sont fidèles, mais ils doivent eux aussi s'adapter. Et c'est pourquoi on ne doit pas être surpris lorsque un de nos compagnons, sur le chemin, change un peu. Supposons qu'on ait le pouvoir de revenir 30 ans en arrière. Eh bien, vous diriez, waouh, Michel, qu'est-ce qu'il a changé? Déjà... et puis la tête, et puis tout, quoi, on a changé, et puis même dans notre façon de nous exprimer, on a changé, et ça, il faut laisser à tous le temps nécessaire pour justifier le pourquoi de ces changements, de ces actions. Par contre, on est implacable avec la trahison. Non, la trahison, ça, c'est, on est implacable. On est gentil, on pardonne et tout, mais voilà, faut pas pousser mes mères dans les orties. Quand un comportement change chez quelqu'un, ben on en discute sur le chemin, mais on est toujours sur le chemin. On reste toujours sur le même chemin. Et depuis 50 ans, je marche sur ce chemin et j'ai vu souvent des nouveaux arriver sur le chemin. Et comme ils n'ont pas d'histoire commune avec nous, eh bien, ils essaient d'en créer une et ils se montrent toujours sous leur meilleur jour. Ils montrent ce qu'il y a de mieux en eux. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Et plus j'avance sur ce chemin, plus je deviens sage et plus j'apprends. Et puis, des fois, j'oublie que j'ai appris, et puis il faut que je réapprenne. Le nouveau est toujours le bienvenu. Il est toujours le bienvenu. Mais on ne lui fera confiance que lorsqu'on connaîtra aussi ses défauts, pas que ses qualités. Parce que quand il nous montre que ses qualités, il y a quelque chose qui ne joue pas. Hein. Il doit avoir des défauts. Il doit avoir des défauts. Non, il ne doit pas avoir des défauts. Si, tout le monde a des défauts. J'en ai, vous en avez, on en a tous. Et comment voulez-vous vivre en communauté avec quelqu'un qui n'a pas de défaut? C'est insupportable. Il n'y a que Jésus qui n'a pas de défaut. Donc, quelqu'un qui n'a pas de défaut, c'est quelqu'un qui cache super bien. Alors, il faut se méfier un petit peu. Hein. Je ne dis pas qu'il faut soupçonner le mal. Mais disons, voilà, on ne peut faire confiance à une personne que quand on la connaît. Que quand on la connaît vraiment. Et on ne la connaît que quand on connaît pas seulement ses qualités, mais aussi ses défauts. Vous voyez, sur ce chemin, il y a du temps qui passe et qui est très utile. Et puis, il y a des ennemis qui surgissent aussi de temps en temps sur ce chemin. Et sur ce chemin, la Bible nous dit que, en fait, nous sommes des soldats. Alors, on va lire 2 Timothée 2, 1-4, où il est dit, verset 1 déjà, « Donc, toi, mon fils, sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yeshua, les choses que tu as apprises de moi, et qui ont été attestés par de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui sont capables de les enseigner à d'autres. Accepte ta part des souffrances comme un bon soldat du Messie Yeshua. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut plaire à l'officier qui le commande. » Voilà, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Et on veut être des bons soldats du roi des rois sur ce chemin. Et on va pas se lancer dans des batailles sans connaître la limite, les limites de nos alliés. Il faut connaître. Et comme je vous disais, il n'y a que le temps. Et le temps, c'est important. Et ça nous aide à connaître. Il faut avoir les yeux et le cœur ouverts. J'ai appris une chose en vivant dans l'Église de Jésus-Christ rétablie, c'est-à-dire la vie communautaire, telle qu'elle est écrite dans Actes 2, Actes 4, etc. Entre nous, dans l'Église véritable, on ne se repent pas. On ne se repent pas, on s'humilie. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est facile de demander pardon. Hein, je te demande pardon. Non. Il faut s'humilier et faire des efforts pour réparer le mal qu'on a fait. Parce que se repentir, pour beaucoup, c'est juste regretter d'avoir fait une chose. Ou alors, se repentir, c'est juste souhaiter ne jamais l'avoir faite ou ne l'avoir jamais dite. Et c'est un peu léger, c'est pas suffisant. Mais celui qui s'humilie, celui qui se repent vraiment, c'est quelque chose d'autre, s'humilier, montrer de l'humilité, pas dire je te pardonne et puis continuer à vivre comme si je te demande pardon puis continuer à vivre comme si c'était rien passé, non, avoir une attitude d'humilité. Se repentir comme ça, ça lave vraiment et ça délie aussi, ça délie. Un poète dont je me souviens plus le nom a dit: nos péchés sont têtus et nos repentirs sont lâches. Quand on se repent, vous voyez, comme ça, pardon, je demande pardon, 70 fois par jour, je demande pardon. Voilà, bon, pardonne, bien sûr, mais un autre a dit, se repentir, c'est commettre une seconde faute. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est s'humilier vraiment sur ce chemin. Parce que, sur le chemin, on apprend vraiment que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Pas seulement mon esprit, mais votre esprit. Il est ardent. Donc, qui c'est qui veut le mal? Personne. On veut le bien, mais notre chair est faible. Alors, il faut l'humilier, cette chair. Il faut qu'elle s'humilie. Alors, je comprends comment, au Moyen-Âge, ils en étaient arrivés à se dire, pour s'humilier, il faut se flageller. Alors, je ne demande pas qu'on fasse ça. Mais il y avait une raison à ça. C'est qu'ils voulaient vraiment souffrir, s'humilier d'avoir fait quelque chose qui n'était pas bien. Et nous devons trouver un moyen aussi pour nous humilier quand on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Pas simplement demander pardon comme ça. Mais ça, on le sait quand on vit ensemble. Les chrétiens qui ne vivent pas ensemble, qui sont simplement à se voir le lundi, le vendredi et le dimanche matin ou à la réunion, ils ne savent pas toutes ces choses. Ils n'ont pas, parce qu'ils manquent de relations entre eux. Alors voilà. Et puis ensuite, un soldat du roi des rois, il a d'autres choses à faire que de passer son temps à s'excuser tout le temps pour ses erreurs. Si je passe tout mon temps à m'excuser pour mes erreurs, eh bien je ne fais aucun progrès parce que je ne peux pas me corriger. Ce qu'il faut, c'est se corriger. C'est pas s'excuser tout le temps. S'excuser tout le temps, c'est le côté négatif de la chose. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre à s'excuser tout le temps pour les erreurs qu'on a faites. Dans l'Église de Jésus-Christ, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les chrétiens pensaient autrement que maintenant. En tout cas, nous. Autrefois, on pensait, quelles conséquences mes actes auront-ils sur les générations à venir? Maintenant, on ne pense plus comme ça parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. Maintenant, on sait que Jésus revient bientôt. Nous savons qu'il revient pour nous prendre. Alors, nous nous préoccupons du moment présent pour qu'il soit le mieux. Et nous faisons le mieux à chaque moment présent. Bien sûr, on a des projets d'avenir, mais pas à trop long terme. On n'est pas en train de se dire, ça donnera quoi dans 3-4 générations, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'enregistrer. Dans 3-4 générations... Personne, il n'y aura plus personne pour écouter ça. Sur le chemin, nous nous blessons souvent nous-mêmes, parce que bon, ça arrive de faire des faux pas. Vous avez vu Stéphane l'autre jour, il descendait à la piscine et puis il s'est plié la cheville. Il n'a pas fait exprès. Hein. Eh bien voilà, ben, ça arrive aussi dans le spirituel, on se blesse des fois soi-même, bêtement. Et puis, voilà, c'est embêtant. Et puis des fois, on est blessé par d'autres. Alors, il faut savoir que tous souffrent. Il faut se rappeler que tous souffrent sur ce chemin. Mais que ça ne sert à rien de comparer notre souffrance personnelle à la souffrance des autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chacun doit respecter et chacun respecte la souffrance de l'autre, tout en se souvenant toujours que la coupe des souffrances n'a pas la même taille pour tout le monde. Vous avez des gens qui peuvent supporter des choses terribles, et puis être bien. Puis vous avez des gens, des chrétiens, qui la moindre petite peccadille, ça en fait une tempête épouvantable dans un verre d'eau. Quoi, je veux dire. Et nous ne pouvons pas juger la souffrance des uns et des autres par rapport à notre propre souffrance. Il faut respecter la souffrance de l'autre, il faut essayer de le consoler, être gentil, comprendre, mais ça ne sert à rien de comparer. En disant, oui, mais tu vois, moi, je peux... Non. C'est idiot. Je dis ça aussi pour nos frères et sœurs qui ne vivent pas en communauté, afin qu'ils apprennent ces choses. Parce que à la fin des temps, il y aura un mouvement de l'esprit qui va faire que les gens vont se mettre en communauté. Ça va être un mouvement de l'esprit ou un mouvement politique qui va faire que les chrétiens vont être obligés de vivre en communauté. Donc ils auront au moins cet enseignement pour avoir un peu des bases, n'est-ce pas, de comment se comporter. Alors, sachant bien ça, eh bien, on marche avec courage. On marche avec courage malgré nos souffrances, malgré les souffrances des autres. On se souvient que les lâches, ils trouvent toujours le monde menaçant et dangereux. Ça, c'est les lâches. Alors, ils vont pas au combat parce que c'est dangereux. Et nous ne cherchons pas la sécurité. On ne cherche pas une vie sans défi. Au contraire. Si notre vie n'a pas, s'il n'y a pas des difficultés, des défis, mais on ne se sent pas vivre. Non ? On est comme ça, nous, hein ? Et nous faisons ce que nous avons à faire, et on le fait pas à pas. C'est bien l'histoire du chemin, parce que sur un chemin, on marche pas à pas, à part Rachel, qui, elle, se déplace en corde à sauter. Non, je plaisante. Rachel, c'est ma belle-maman. Et ça serait quand même assez compliqué de se déplacer en corde à sauter, hein, n'est-ce pas? Même moi, je n'arrive plus tellement. Michou, elle a encore une de corde à sauter. Moi, j'ai essayé, je m'essouffle vite. Hein. Alors, nous faisons ce que nous avons à faire pas à pas. Il y a un petit cœur qui dit ça. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. C'est un vieux chant qu'on chantait dans la Pentecôte dans les années 60. Alors, on fait les choses, sachant que si on ne les fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui devra le faire à notre place. Ou alors, personne ne le fera à notre place. Alors, nous faisons ce qu'il y a à faire. On prend part, donc, au bon combat de la foi. Et je dis bien de la foi, parce qu'il n'y a aucune assurance au sujet de qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va y arriver, qu'est-ce qui va arriver ce soir. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on marche, on combat le bon combat de la foi. Quand il faut se battre, on se bat. Et on est dans nos frères et sœurs, sans savoir toujours très bien pourquoi ils en sont là où ils en sont. On n'a pas à essayer de toujours tout comprendre, tout expliquer. Vous savez, quand on sait que quand on sort d'un long traitement, d'une longue maladie, je sais ce que c'est pour notre santé, eh bien ça ne sert à rien de penser à la souffrance qu'on a dû affronter. Ça sert à rien. Bon, on y pense, obligé, mais il y a un moment, faut arrêter. Ce qu'il est bon de faire, c'est d'entrer dans la gratitude envers Dieu qui a permis la guérison. Il faut à un moment donné sur ce chemin dire, bon, je ne m'embarrasse pas de cette chose-là. Hein, le bon soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Et c'est les choses de la vie, c'est les choses qui nous touchent, qui nous ont blessés. Mais voilà, maintenant, Jésus a permis qu'on soit guéri, alors on laisse tomber, on passe à autre chose. Quand la souffrance frappe, il faut frapper plus fort dans la gratitude. Vous savez, il y a un texte qui dit « La prière fervente du juste est une grande efficace. » Et je vous recommande de prier d'une façon fervente. Les prières genre « Éternel mon Dieu, je te bénis pour cette journée. Merci Seigneur parce que tu nous gardes et tu nous protèges. Je te prie vraiment qu'on puisse avoir gain de cause dans cette affaire. » Ça, c'est pas une prière fervente. Voilà, ce que lui, il fait là, c'est quelque chose de fervent. Il met de la voix. Seigneur Dieu! Vous avez déjà vu les Africains comme ils prient? Avec ferveur! C'est ce que c'est avec ferveur! Regardez un match de foot, vous allez avoir des gens qui ont de la ferveur. Priez. C'est pas possible. Lui, il voit qu'il y a des gens qui arrivent, alors il nous avertit. Oui, il fait son boulot, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'églises où il y a un chien, hein. Nous, il y en a même deux. Vous savez, c'est nécessaire de bien comprendre ces choses-là. Il faut entrer dans la gratitude, mais de façon fervente. Quand le malheur t'atteint, rentre dans la gratitude tout de suite, parce que tu sais que Dieu va t'en délivrer. L'Éternel, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Eh bien, si nous en délivre, si on en est sûr, on commence dans la louange et dans la gratitude fervente tout de suite. On n'attend pas qu'on soit submergé, d'accord? On rentre dans la louange tout de suite, et pas les louanges. Alléluia, Seigneur, je sais que tu es bon. Non. Mettez de la voix. Vous savez, en chant, vous avez Étienne Dao, et puis vous avez Caruso, hein. Ben, soyez des Caruso, soyez pas des Étienne Dao. On comprend rien ce qu'ils chantent. C'est peut-être très joli pour certains, mais moi je comprends rien du tout de ce qu'ils... Bon, voilà. C'est nos goûts, hein. Louez Dieu d'avoir été trouvé assez fort pour pouvoir... il nous a confié des souffrances, et il nous a jugé suffisamment fort pour pouvoir les supporter. Mais louez Dieu pour ça, remerciez Dieu pour ça. Obligez-vous à voir ce qui est beau, ce qui porte en soi la beauté, plutôt que la laideur. Tout à l'heure, je lisais sur Facebook encore des commentaires. Alors, il y a un homme qui dit, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il disait quelque chose de très extraordinaire. Il racontait comment il allait voir des serviteurs de Dieu, et puis comment à chaque fois les serviteurs de Dieu ne mettaient pas le doigt sur ses péchés, mais l'élevaient, le fortifiaient, parce qu'ils voyaient qu'il avait le cœur contrit et tout. Puis tout de suite derrière, il y a une bonne femme chrétienne qui dit, oui, mais un prophète qui parle pas du péché, du repentir, de la sanctification, pour moi c'est pas un homme de Dieu. Vous savez, il y a tous les avis, Il faut un peu d'intelligence spirituelle. Un homme de Dieu, quand il voit quelqu'un qui arrive et qui est contrit, il ne va pas encore enfoncer davantage. Non, il va le relever. Amen,
amen.
Bien sûr, ben c'est comme ça, c'est normal, c'est logique. Et puis, on n'a pas à juger les serviteurs de Dieu qui agissent de cette manière-là. Il faut voir ce qui est beau. Il faut arrêter de voir toujours le mal partout, toujours le moche partout, soupçonner le mal tout le temps. Il y en a marre, il y a un ras-le-bol de cette sorte d'esprit, on n'en veut pas chez nous. On doit conserver notre bonne humeur, même dans les moments les plus glauques, les plus difficiles, les plus dans les crises, conserver notre bonne humeur. Pourquoi qu'on la mettrait de côté? Non, il ne faut pas la mettre de côté. Il faut s'efforcer. Hein, c'est ce que un soldat, il est blessé, mais tant qu'il peut encore, il y va. Hein. Vous avez vu Dunkerque? Vous avez vu le film Dunkerque? C'est pas des tapettes, hein? Non, pardon. Excusez-moi, j'ai encore dit un gros mot. Ben, c'est pas un gros mot, mais je veux dire, c'est voilà, c'est pas des ouh là, non, j'y vais plus, il y a trop, et hop, ça mouille. Ah non, non, faut y aller. Car Dieu et tout ce qui existe est en train de s'efforcer à t'aider. Il faut que tu crois ça. Quand tu es dans un moment difficile sur ton chemin, Dieu est tout ce qui existe, parce que tout ce qui existe est sous le contrôle de Dieu. Il met toutes les choses en place pour t'aider, pour te donner exactement ce dont tu as besoin. Même si ça semble aller de travers dans tous les domaines, même si tout semble dire le contraire, il faut que tu crois. C'est ça être croyant. Être croyant, c'est pas seulement dire « je crois en Dieu », mais c'est de croire dans ce qu'il a promis. Et il a promis « je suis l'Éternel ton Dieu, ne promène pas des regards inquiets, rassure-toi, je viens à ton secours ». Il est en train de tout faire pour que ça soit le mieux. Tu es un soldat, tu es pas un objet décoratif qu'on a posé là au bord du chemin pour faire joli. Non, tu es un soldat. Ta pensée, c'est comme une usine. Ta pensée, elle produit des choses. Et les usines, elles produisent des choses. Mais dans toutes les usines, il y a des résidus, n'est-ce pas? Des restes, des machins, des trucs qu'on jette, qui ont servi un temps, mais qui ne servent plus. Mais dans la nature, c'est la même chose. Le blé, ben, c'est quoi qu'on veut dans le blé? C'est pas la balle, c'est le grain. Et pourtant, la balle, elle a eu son importance. La tige, elle a eu son importance. Les feuilles ont eu leur importance. Mais c'est le grain qu'on veut, c'est pas le reste, on n'en veut pas. Eh bien, il y a des résidus émotionnels en nous dont il faut se débarrasser un jour. Poubelle. Et alors, on dit toujours la même chose. Faut tout mettre au pied de la croix. Bon, on a tellement dit qu'on sait plus ce que ça veut dire. Alors, je vous dis autrement, vous avez des résidus émotionnels qu'il faut foutre à la poubelle. Un jour, moi j'ai un ami... Pour pas le nommer, c'est Marc Croza. Mais il est spécial. C'est pour ça que c'est mon ami, c'est parce qu'il est spécial. Moi, tous les gens que j'aime et qui m'aiment sont des gens spéciaux. Hein. Alors, il me dit, moi je vais dans un... il dit, je vais dans une forêt, je prends un bâton et je frappe sur les rochers. Et je hurle et je gueule, je pousse ma gueule. Ça fait un bien fou. Voilà, ça c'est une manière de faire aussi. Hein? Bon, c'est vrai que ça paraît pas aussi spirituel que dire « je mets au pied de la croix ». Oui, mais ça veut on l'a tellement dit que ça ne veut plus rien dire pour beaucoup de chrétiens. Ils disent « je mets mes fardeaux au pied de la croix », puis ils s'en vont, ils les ont toujours. Alors, faites quelque chose, défoulez-vous. Allez faire du sport, faites quelque chose, défoulez-vous. Suez un petit peu tous ces résidus émotionnels de votre pensée. Ce sont des douleurs du passé qui maintenant n'ont plus d'utilité. C'est des résidus émotionnels qui ont eu un temps, une utilité. Par exemple, les feuilles, c'est là maintenant. Il y a beaucoup de feuilles sur dans les vignes, on est en plein milieu des vignes ici. Mais pourquoi il y a ces feuilles? Ben pour protéger le raisin, lui faire de l'ombre, gnagnagna, hein. Tout ça c'est très joli, mais les feuilles, qu'est-ce qu'on va en faire? À part les Chinois qui les bouffent. Voilà, non, nous c'est le raisin qu'on veut. Hein. Puis avec le raisin, qu'est-ce qu'on veut? Du jus de pomme? Du bon vin, voilà. Tant pis pour ceux qui n'aiment pas ça. Avec de la viande en plus. Mais... ça sert plus maintenant, ces résidus. C'est des résidus. Comme dans les usines, il y a toujours des résidus. Un soldat qui marche sur le chemin en Jésus-Christ, il a des souvenirs, c'est certain et c'est obligatoire. Mais un soldat se discipline Et il va arriver à faire le tri entre les bons souvenirs et les mauvais souvenirs. Il va pas ressasser sans arrêt les mauvais. Il va faire le choix. Nous sommes en route, nous allons de l'avant, on reste pas sur place, on se retourne pas en arrière, on regarde pas sans arrêt dans le rétroviseur. Nous sommes... Je suis plus ce que j'étais il y a un an. J'ai changé, j'ai vieilli, je me suis assagi, ou j'ai empiré. Je sais pas, c'est votre regard sur moi, mais en tout cas... Moi, j'ai l'impression d'évoluer. Nous évoluons, nous changeons, et nous ne voulons que de bonnes choses, que de bons sentiments qui nous accompagnent sur notre chemin. Nous ne voulons pas d'autre chose. Et on ne peut pas traîner des boulets comme ça toute notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas possible. Et le Seigneur te dit ce matin que tu es plus que ce que tu es quand tu es triste. Tu es plus que ce que tu es quand tu es triste. Alors, là, tu as été triste, tu es triste, voilà. Mais maintenant, dis-toi, je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de ça. Je vais me débarrasser de cette tristesse. Déjà, le fait de le vouloir. De le vouloir. Et Dieu te donnera le moyen. Alors, on a vu des gens qui ont vécu avec nous dans la communauté, et puis qui nous ont quittés. Puis nous, on est restés. Pourquoi est-ce que Dieu permet que toi, tu sois encore là? Pense-y. Pense-y. C'est parce que tu es fort. En ce moment, sur la terre, il y a des milliers de personnes qui ont renoncé. Ils ont renoncé à ceci, à cela. Ils ont promis ceci, ils ont juré cela. Ils sont entrés dans les eaux du baptême, ils ont fait des promesses. Moi, je me rappelle un soir dans le parc, là-bas au château, on avait... signer même un papier comme quoi on serait fiel jusqu'à la mort, on était des vrais gamins, hein. Mais en fait, qu'on était sincères. Enfin, à moitié, ils ont, parjure. Des millions de personnes ont renoncé. Alors, ils s'ennuient pas, ces gens. Faut pas croire qu'ils s'ennuient. Ils pleurent pas non plus. Mais simplement, ils font plus rien. Ou ils font, mais à côté du chemin. Ils attendent que le temps passe et que Jésus revienne. Voilà. Ils ont perdu la capacité d'agir en tant que soldat sur le chemin avec les autres soldats. Un soldat, il part pas tout seul, hein. Ou alors il s'appelle Ryan. Il faut aller le sauver. D'accord? Alors, à toi, mon frère, ma sœur, qui est peut-être triste. Sache en tout cas une chose, c'est que tu as eu toujours une âme. Parce que si tu n'étais pas triste, tu n'aurais pas d'âme. Donc tu as toujours une âme. Soigne-la. Fais-toi du bien. Fais-toi des petites joies, fais-toi plaisir, ne tourne pas en rond là-dedans, reste pas seul. Un soldat du roi des rois, il connaît l'histoire de ceux qui ont déjà passé sur ce chemin avant lui. On connaît la Bible, on connaît aussi les biographies d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Eh bien, toutes les victoires de ces gens, quand on les lit dans la Bible, on voit David qui part avec 100 000 hommes, ils se battent en 3 coups de cuillère à peau, là, en 3 versets, c'est fini, c'est terminé. Et David remporta la victoire grâce à l'Éternel. Mais ça a duré quand même. Il y a eu des coups d'épée dans la tronche, il y a eu des souffrances terribles. Eh bien, il faut réaliser tout cela. Et les grands résultats sont remplis de petits succès. Alors occupez-vous du grand résultat final uniquement, mais des petites choses que vous pouvez faire qui vont vous mener au succès et à la délivrance. Alors, comprends cela, mon frère et ma sœur. Comprends ce que je viens de te dire et dors tranquille. Dors tranquille, reste tranquille. Ne culpabilise pas d'avoir mis si longtemps pour en arriver au point où tu en es. Non, au contraire. Réjouis-toi de savoir que tu es arrivé au point où tu en es. Il y en a qui sont même pas arrivés jusque-là. Hein? C'est vrai? Il y en a qui sont même pas arrivés. Toi, tu es là. Alors, réjouis-toi que le Seigneur t'a donné la force, l'intelligence, la sagesse pour arriver jusque-là. À chaque jour suffit sa peine, mais aussi sa joie. C'est toujours en balance. Alors, ne prie pas en disant... Comment expliquer ça? Même moi, je fais ça des fois. Je dis à Dieu ce qu'il doit faire. Faut pas prier comme ça. Faut pas prier comme ça. Quand on prie comme ça, ça met Dieu dans l'embarras. Et puis nous, de toute façon, il va faire ce qu'il veut, comme il veut, comme ça lui convient. Et puis nous, si on demande, Seigneur fait ci, Seigneur fait ça, et puis qu'il le fait pas, on a l'impression de pas être entendu. Donc c'est négatif. Alors, je t'exhorte à prier avec humilité. Seigneur, je comprends pas, je suis sur le chemin. Bon, je sais qu'il y a une... la fin, c'est la vie éternelle, c'est... je te verrai, c'est merveilleux, je vois, c'est fantastique. Mais en attendant, c'est plein d'incertitudes, plein de difficultés. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voyez, soyons humbles, que ta volonté soit faite. Alors, on peut avoir des projets, on peut, voilà, on aimerait faire, on aimerait avoir ceci, on aimerait faire cela, on aimerait. C'est bien d'avoir des projets, mais il faut pas trop s'y attacher. Ce qu'il faut, c'est, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si vous pensez comme ça, ben, vous serez déjà un peu plus heureux que la moyenne des ours sur ce chemin. Alors, tout ce que je vous ai dit ce matin dans ma prédication, c'est ça que ça veut dire. Que vous vous souveniez de toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Jésus, je te prie pour chacun et chacune qui a écouté ou regardé ce message dans le nom de Jésus-Christ, afin que chacun et chacune puisse prendre ce dont il a besoin pour pouvoir faire ce qu'il a à faire sur ce chemin. On a tous quelque chose à faire, on n'est pas seul sur le chemin, on a des compagnons, on a des frères, on a des sœurs, il y en a qui marchent plus vite que d'autres, mais on est là, on est tous ensemble, on s'attend les uns les autres aussi. Merci Jésus de nous aider à être de bons soldats de la foi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Au revoir.